les jardinières.
Sept heures passées de quelques minutes, mais nous sommes prêts à vous parler jardinage durant une heure. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène, bonjour tout le monde.
Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Tom le jardinier. Bonjour Tom.
Bonjour, bonjour.
Tom le jardinier, vous êtes chroniqueur, blogueur, auteur du livre Un potager au naturel, paru chez Albin Michel et on peut aussi retrouver vos conseils sur votre site tomlejardinier.com ou bien sûr via les réseaux sociaux. Merci d'être avec nous ce matin.
Habillez-vous. Ça caille dehors, bon réveil et soyez les bienvenus dans les jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Tom, dans quelques minutes, nous allons parler de grands nettoyages d'automne. Mais avant de se lancer dans le sujet, que faire au jardin, à part le nettoyage bien sûr?
Ben, on s'habille, parce qu'il fait bien froid ce matin. On peut commencer un petit peu à rentrer toutes les plantes qui pourraient avoir froid, qui pourraient geler. Hein. On les rentre vraiment parce qu'il fait vraiment froid. On peut aussi récolter tous les légumes qui ne seraient encore pas récoltés et puis qui pourraient souffrir du froid. On peut aussi aménager un petit coin pour mettre ses poireaux, etc. pour qu'on n'ait pas besoin de traverser tout le jardin pour aller les récolter. Parce que quand ils gèlent, eh ben, on peut juste aller devant la maison, ça peut suffire. Donc on fait une petite jauge, on y met, comme ça on pourra les récolter plus tard. Et puis ben, tout ce qui est chou, tout ça, ben, on peut gentiment commencer à les rentrer eux aussi.
Tom, est-ce qu'il faut être plus attentif quand l'automne arrive ou quand le printemps arrive? Parce qu'on sait aussi que c'est des périodes un petit peu clés quand on est au jardin.
Alors l'automne, il y a une grande période charnière, c'est les premières gelées, et puis le printemps c'est la dernière gelée qu'on espère le plus tôt possible pour avoir plus de temps au jardin. Mais cette gelée blanche là, elle peut causer pas mal de dégâts, donc on fait vraiment attention à cette période là. Et puis on essaye aussi de ne plus avoir de plantes qui risquent d'être sensibles au froid à l'extérieur à cette période là. Donc toutes ces petites dates clés, moi je les note toujours dans un agenda, et puis comme ça on peut les retrouver d'année en année. Comme ça on n'est généralement pas trop surpris s'il y a une gelée qui arrive. On a à peu près une date moyenne de notre jardin où c'est qu'il y a la première gelée qui arrive.
Merci beaucoup Tom. Maintenant c'est à vous de jouer. Vous pouvez nous appeler jusqu'à 8h pour poser vos questions. 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute pour avoir la chance de parler directement à Tom le jardinier. Sinon pour les timides, ben, vous avez l'option SMS. Vous tapez jardin un espace suivi de votre question que vous nous envoyez au 939. Et toujours notre formulaire qui est disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Dans quelques minutes, place au grand nettoyage d'automne avant l'arrivée de l'hiver. Tom va nous expliquer les bons gestes pour retrouver un jardin en pleine forme au printemps.
7h, 8h, les jardinières.
Quand on parle de grand nettoyage, on pense directement au printemps. Et pourtant, le jardin apprécie un grand nettoyage d'automne. C'est ce que va nous expliquer Tom le jardinier. Nettoyer, balayer, comme le dit si bien Zouk Machine, exactement, est un des travaux les plus importants en automne. Vous l'aurez compris, on va commencer par parler des feuilles mortes. Alors Tom, faut-il vraiment balayer les feuilles mortes qui jonchent le sol?
Alors moi, je suis pas un fou du ramasser de feuilles mortes. Il y a 2-3 endroits où c'est que quand même...
Non, parce que déjà, c'est pénible surtout.
Ouais, et puis il fait froid, quoi. Et puis, il y a quand même où c'est que je passe un coup de balai ou de râteau à feuilles. Les chemins et les allées, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que petite pluie dessus ou un petit verglas, ben, c'est une vraie patinoire. Donc, on va vraiment éviter d'avoir des feuilles mortes dans ses chemins et dans ses allées pour ne pas se casser la jambe ou le poignet, on ne sait jamais.
C'est du vécu ?
Non, pas chez moi, mais ça pourrait arriver. Et puis, si je veux avoir un gazon nickel propre, tout ça, ce qui est un petit peu contradictoire avec la biodiversité, là aussi, j'enlève les feuilles mortes parce qu'en se décomposant, les feuilles mortes, elles vont peut-être faire des petites auréoles dans le gazon, c'est qu'il n'y aura plus de gazon. Parce qu'il n'y a pas de lumière, parce que tout ça. Donc là aussi, c'est un endroit où je vais ramasser les feuilles. Puis après, ben, y a toutes les questions d'esthétique. Si vous voulez des endroits ripollinés, comme on dirait, ben, là aussi, on peut les enlever. Mais il y aura plein de choses à faire avec ces feuilles mortes.
Bah justement, Tom, parce que vous dites que vous n'aimez pas trop les enlever, mais finalement, on les enlève sur les allées, on les enlève dans le jardin, on les enlève à tous les endroits où on veut que ce soit nickel. On en fait quoi de toutes ces feuilles mortes que finalement, on ne voulait pas enlever, mais qu'on a enlevées quand même?
Alors, on peut les composter. Ça fait un très très bon terreau, un terreau de feuilles qui est très utile si on veut rempoter après ces plantes d'intérieur. On peut aussi les utiliser en complément pour un paillage. Moi, je les broie, ça fait une sorte de mulch. Et puis, par exemple, dans ces poireaux, comme on en parlait dans les choses à faire, faire en cette période, ça fait aussi une bonne petite couche de protection. On peut mettre dans ses poireaux 5-10 cm de feuilles mortes, et puis là, la terre ne va pas geler sous ses feuilles mortes, et puis on peut les récupérer facilement, un petit coup de bêche, puis les poireaux sortent. Autre chose que je pense maintenant, c'est qu'on peut faire aussi des gros tas, mettre quelques branches dessus, et puis ça fait de véritables petites hôtels à hérissons. Si vous avez un hérisson ou d'autres qui sont dans votre jardin, ça leur fait des refuges pour passer facilement l'hiver.
Tom, est-ce que toutes les feuilles mortes sont bonnes pour notre compost ou pour le mulch, ou est-ce que certaines espèces sont à proscrire ?
Alors, elles sont toutes pas mauvaises, on va dire. Il y a certaines feuilles qui vont un petit peu moins bien se décomposer. C'est souvent les feuilles qui sont très grandes, c'est souvent les feuilles qui peuvent être un petit peu dures, comme on pense à la laurel. Vous savez, on a ces haies de laurel. Celles-là, elles sont un petit peu dures, elles sont un peu coriaces. Là, je conseille de les mettre dans les hachets. Il y a des hachoirs qu'on trouve, pour hacher les branches.
Et des broyeuses.
Des broyeuses, voilà. On peut utiliser ça. Ça fait des petites feuilles. Ça fait plus facilement à se décomposer. Et puis, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas avoir une mono-espèce de feuilles. Essayer d'avoir, là aussi, plein de feuilles, c'est la meilleure chose à faire.
Tom, quelle est la meilleure technique pour ramasser ces feuilles mortes ? Est-ce que c'est la souffleuse, la tondeuse, ou comme vous l'avez dit, peut-être un petit coup de râteau vite fait ?
Alors, la souffleuse, c'est un bon moyen si on a des grandes surfaces, mais il faut faire attention avec ses voisins, hein, parce que ça fait tout de suite un petit peu de bruit. Puis,
À peine.
Voilà, si on veut pas éviter les conflits de voisinage, donc faire attention avec ça. S'il y en a énormément, vous pouvez aussi, s'il n'y en a pas énormément sur une surface de gazon, par exemple, là aussi, on peut utiliser la tondeuse à gazon, et puis ça va les hacher et tout ça. On n'oublie pas de les récolter. Hein, la dernière tonde de gazon qu'on fait assez courte, on récolte les tondes pour éviter que ça fasse des problèmes de moisissure. Et puis sur les petites surfaces, ben là, un petit peu d'huile de coule, de le râteau à feuilles, et puis on est bon.
Merci beaucoup Tom. Voilà, on s'est occupé des feuilles mortes. Il y a encore du boulot à faire dans le jardin pour ce grand nettoyage d'automne. On va en parler dans quelques minutes.
7h, 8h. Les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Tom le jardinier, on parle de grand nettoyage d'automne. Alors, nous avons parlé des feuilles mortes. Passons au potager maintenant. Alors, la plupart des légumes sont en fin de vie. Je pense par exemple aux pieds de tomates ou de courgettes. Qu'est-ce qu'on fait, Tom, des plants encore en terre ?
Ben, on a vraiment une année pourrie cette année, donc si vous avez de la chance d'avoir encore des pieds de tomates ou de courgettes, félicitations, c'est que vous en êtes vraiment bien occupé. Alors, c'est un conseil qui va peut-être paraître étrange pour ce qu'on faisait jusqu'à maintenant dans nos potagers, mais moi, les pieds de tomates, les pieds de courgettes, tout ça, ben, je vais les couper à la base, mais je vais laisser la partie des racines en terre. Et puis, si on a un paillage déjà dans son jardin, je le retire, je vais coucher mes pieds de tomates, puis remettre le paillage par-dessus. Comme ça, ça va se décomposer tranquillement. Ce qu'il faudra faire attention, quand même, c'est de faire une bonne rotation des cultures, parce que là, si notre pied a été malade, on a peut-être du mildiou, etc. Donc, on ne va peut-être pas mettre les mêmes légumes de la même famille à cet endroit-là pour éviter d'avoir les mêmes maladies les années suivantes. Mais comme ça, avec les racines qui sont déjà en terre, eh ben, ça crée de la nourriture pour la vie du sol. Et puis en plus, ça évite qu'avec l'hiver, notre terre se tasse trop. Donc on a un échange gagnant-gagnant. Et puis on évite de mettre beaucoup de compost, beaucoup d'autres choses, d'huile de coude avec les brouettes et tout ça, parce que ça va se décomposer naturellement.
Et Tom, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire avec les fruits et les légumes qui pourrissent tranquillement au sol ? Est-ce qu'on les enlève ? Est-ce qu'on les laisse justement pour nourrir la terre ?
Alors, pour ce qui est des fruits pourris, ben, c'est un petit peu plus compliqué. On ne va pas transbahuter nos arbres pour faire une rotation de culture. Donc là, je conseille quand même de les récolter, de les mettre peut-être de côté. On peut éventuellement, avec les fruits qui ne seraient pas trop malades, faire éventuellement du jus de pomme.
Ou mais... de l'agneau ?
Voilà, par exemple.
Mylène, c'est un peu tôt, Mylène.
Mylène rentre de soirée. Par contre, là, ben, je les conseille de mettre au compost. Et puis, pour ce qui est des légumes pourris, moi, je les laisse plutôt sur place, sous le paillage. Et puis, comme ça, en mettant aussi sous le paillage, ben, on évite d'avoir des indésirables, des renards, des choses comme ça qui viendraient essayer de les grignoter. Comme ça, ben, on ne les voit pas, il n'y a pas l'odeur et puis c'est sous le paillage.
Vous avez parlé tout à l'heure de la terre qui se tasse. Alors, est-ce qu'il faut semer ou planter des végétaux dans cette terre qui peut être à nu par endroit ?
Alors normalement, on se rend compte un petit peu plus tôt qu'on risque d'avoir une plate-bande qui risque d'être nue. Là, je conseille de mettre un engrais vert. Donc un engrais vert, c'est une plante qu'on va mettre, qui pousse et puis qu'on va faucher et incorporer dans le sol au début du printemps. Là, on commence à être un peu tard. Dans certaines régions, on commence à gratter les pare-brises des voitures, donc c'est vraiment un peu tard. Si on est un peu chanceux avec la météo, ce que je peux conseiller de faire, ben, c'est de mettre des épinards, parce que là, les épinards, on peut les manger. Mais même si on en a déjà plein dans le jardin, ça permet aussi de ces épinards d'être aussi retournés dans le sol au printemps comme un engrais vert. Autrement, on ne laisse surtout pas notre jardin avec la terre nue. Là, on peut mettre des feuilles mortes, comme on en parlait avant. On peut mettre les dernières tondes de gazon, etc. Comme ça, on évite que la terre est labourée, enfin, qu'elle soit lessivée avec les pluies et les neiges. Donc on met quelque chose sur sa terre, on la laisse pas nue pendant tout l'hiver.
Les jardinières.
Les jardinières sont de retour et il vous reste une petite demi-heure pour poser toutes vos questions à notre invité. Tom le jardinier, chroniqueur, blogueur, auteur du livre Un potager au naturel paru chez Albin Michel. Et puis bien sûr, vous retrouvez tous les conseils de Tom le jardinier sur son site tomlejardinier.com ou via les réseaux sociaux.
Et je suis certain que vous avez une question à poser à Tom sur le jardinage, hein, qu'on soit d'accord. Vous le faites par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question et vous nous envoyez ce message au 939 ou via le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission, questions aux jardinières.
Alors Tom, en première partie d'émission, on a parlé de ce grand nettoyage d'automne et plus particulièrement des feuilles mortes qu'on peut utiliser comme compost ou comme mulch dans le jardin. Alors, si on n'a pas d'arbre, est-ce qu'on peut prendre, je ne sais pas, sa brouette ou un grand sac et aller se servir de feuilles mortes en forêt ?
J'ai l'image.
Alors, on évite toujours d'aller en forêt parce que les feuilles mortes, elles ont un rôle important pour l'équilibre de la forêt. Il n'y a personne qui va avec son petit sac d'engrais nourrir la forêt. Donc, ça, les feuilles mortes nourrissent la faune et font aussi une sorte d'apport de matière organique dans la forêt. Par contre, n'hésitez pas à aller demander à vos voisins ou regarder avec la commune. Il y a toujours une place ou un endroit où ils ramassent les feuilles. Et puis souvent, ils font peut-être des tas ou ce genre de choses-là. Donc, on n'hésite pas à s'en servir pour ça. Puis, on a besoin de quelques feuilles mortes dans son jardin, ça fait toujours du bien pour protéger aussi les rosiers, ce genre de choses-là. Donc, n'hésitez pas à demander soit à la commune, soit à demander aux voisins. Ils vous regarderont peut-être avec un drôle d'œil.
Et salut, t'as pas du sucre et quelques feuilles mortes, s'il te plaît ? Merci beaucoup, Tom. Et puis, pour tous les conseils sur ce nettoyage d'automne, n'hésitez pas, le podcast de cette émission sera disponible tout à l'heure dans la matinée. On passe aux questions que l'on a reçues. On a reçu une question cette semaine de Paulette de Tramelan. Bonjour et merci pour votre émission. Ben, merci de votre écoute, Paulette. Il y a environ 10 ans que j'ai acheté ce palmier. Il a passé l'hiver dans une véranda plastifiée avec encore une housse de protection. Au printemps, il est ressorti magnifique, puis petit à petit, les feuilles ont séché. Sa question est-il récupérable ? Est-ce que les racines qui sont visibles ont provoqué ça ?
Alors non, je ne pense pas que ce soit un problème de racines. Par contre, on a eu un été qui n'a pas été un vrai été. Il a fait assez frais, il a fait assez humide, donc ça peut être dû à ça. Je vois pas d'image, je ne sais pas s'il y avait une image.
Non,
qui
je
a
pense
été
que
jointe.
D'ailleurs, si Paulette, vous nous écoutez, essayez de nous renvoyer une image. Je pense que la photo a été zappée, tout simplement.
Donc, je ne peux pas voir s'il y a encore du vert, mais quand il y a du vert, il y a de l'espoir. Donc, c'est possible que son palmier puisse repartir. Et puis, sinon, ben, il faut espérer qu'il fasse un peu plus chaud l'été prochain. Moi, je reviens d'une région où c'est que j'ai vu pas mal de palmiers. C'est humidité 50% et puis toute l'année, des bonnes conditions de météo. Donc, c'est peut-être aussi un peu ça qu'on a eu cet été qui manquait.
Justement, Tom, on en parle quand même de temps en temps, de ces palmiers, des palmiers en Suisse, c'est pas trop l'endroit. Finalement, alors, la Paulette, on a un depuis 10 ans, donc comme quoi ça fonctionne, mais est-ce qu'il faut avoir une attention particulière quand on décide de prendre un palmier ?
Alors, déjà, il commence à y avoir des palmiers qu'on trouve résistants à certaines températures, hein, je dirais pas encore celle de Tramelan, parce qu'il peut faire un peu froid à Tramelan, mais on peut en avoir quelques-uns qui commencent à résister. Et puis, il faut faire attention, peut-être passer des fois, de temps en temps, un coup d'eau sur le tronc, qu'on appelle ça un stipe, puis sur les palmes, pour apporter un petit peu d'humidité ambiante. Et puis, bien les protéger, éventuellement les rentrer l'hiver, trouver peut-être une jardinerie qui les ramène, dans laquelle on peut les ramener, ce qui font un service d'hivernage, parce qu'il faut bien se dire que on n'a pas les conditions. Bien faire aussi attention, si on le plante en pleine terre, à la terre qu'on choisit, mettre peut-être du sable, du gravillon, etc., pour que ça draine, pour pas qu'il ait trop les pieds dans l'eau. Puis, pas forcément les palmiers, plutôt essayer de prendre quelques petites plantes indigènes plutôt pour aussi attirer un petit peu des insectes, un petit peu attirer des oiseaux dans son jardin qui seront plus friands de ces plantes-là que des palmiers.
Oui, parce qu'il y a très peu de cacatoès dans la région.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin et c'est Tom le jardinier qui répond à vos questions jusqu'à 8h. On a d'ailleurs reçu une question de Nathalie de Courandelin qui nous dit « Bonjour, mes framboisiers ont été infestés de punaises cette fin d'été. Quoi faire pour les éradiquer ?»
Alors, si elle a eu des punaises, c'est quelque chose qui va mourir avec l'hiver, le froid, le gel. Donc, rien à faire. Par contre, les framboisiers ont une taille à faire. On a une taille au printemps ou une taille à l'automne. Là aussi, ça en risque d'en enlever pas mal.
Merci beaucoup, Tom. On vient de recevoir, très réactive, notre amie Paulette de Tramelon, qui nous posait tout à l'heure sa question sur son palmier. Peut-être que ça marche cette fois, c'est son message, parce qu'on a reçu la photo. Tom, le temps que vous puissiez l'avoir sous les yeux, on a enfin peut-être des réponses pour Paulette et ce palmier qui a 10 ans de vie, mais qui a un peu mal vécu cet été, un peu
alors,
bizarre que
Raphaël,
l'on a vécu.
Raphaël, le temps de transférer la photo à Tom, je vous propose de rappeler comment aux gens oui. Pour nous
appeler, nous contacter pour faire comme Paulette. Tiens, vous allez sur notre site internet, vous allez sous l'onglet émission questions aux jardinières. Là, vous avez un petit formulaire, vous mettez votre nom, votre prénom, votre message. Vous pouvez y joindre une photo qui aidera notre professionnel à répondre. Sinon, vous pouvez être en direct avec nous. Ça aussi, c'est plutôt sympa. 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Là, vous parlez en direct avec Tom le jardinier. Et puis la dernière option, c'est par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question et vous nous envoyez tout ce petit monde au 939.
Alors Raphaël, j'ai la photo.
C'est parfait.
Eh bien, je pense que... Alors là, il a probablement soit eu un petit peu froid, soit justement un peu sec, ce qui fait que les palmes donc ont un petit peu bruni. Ce qui peut être aussi dû, c'est s'il a été mis en véranda, ce palmier, il a peut-être simplement touché les vitres de la véranda. Les vitres d'une véranda, même si elles sont chauffées, elles peuvent être un petit peu fraîches. Donc ça aussi, ça peut poser des problèmes. Et puis là, on... Encore un autre conseil, c'est aussi le laisser un petit peu aérer aussi parce que même dans une véranda, on aère un petit peu pour que les plantes puissent avoir un peu d'air frais parce que souvent sous ces plastiques, sous ces voiles de protection, il peut y avoir une accumulation d'humidité qui peut poser un petit peu des préjudices à nos palmiers. Mais ça, je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine.
Oui, parce que la semaine prochaine, on va parler protection hivernale.
Et puis pour terminer sur l'histoire du palmier, Paulette nous marquait, est-ce les racines qui sont visibles qui ont provoqué ça? On voit bien que les racines sont passablement visibles dans son pot et sur cette photo. Est-ce qu'il faut faire quelque chose par rapport à ça?
Alors peut-être un léger rempotage, mais pas plus que ça, avec une terre extrêmement drainante. Mais là, il n'y a pas besoin de le rempoter plus profond parce qu'on risque de faire un effet pervers et puis avoir une accumulation d'humidité auprès de ses racines. Donc pas besoin de le rempoter plus profond, là c'est à la bonne profondeur.
7h, 8h, les jardinières.
Dernière minute pour les jardinières, on va rapidement rappeler comment nous joindre. Si vous avez une question, il y a trois possibilités, utilisez-les.
Exactement, 0901 70 20 20, c'est par téléphone, vous êtes en direct avec nous, vous pouvez le faire par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous nous envoyez ce message au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site internet, vous allez sous l'onglet émission, vous pouvez même y joindre une photo, ça arrangera notre professionnel et vous allez sous l'onglet question aux jardinières.
Et on a reçu une question qui nous parle de coins. On nous demande quand faut-il récolter les coins, Tom ?
Alors, on remarque en cette période que généralement, il y a des premiers coins qui tombent au pied de l'arbre. Donc là, c'est un signe indicatif qu'on peut récolter les coins. Quand on les cueille, on voit qu'ils se détachent facilement. C'est aussi un deuxième signe indicatif. Et puis, je vous conseille tout de même de récolter aussi les coins qui sont tout bruns, avec des espèces de cercles gris, ce qu'on appelle une moisissure, c'est la moniliose. Et puis là, on les met à l'écart, on les met au compost, mais on essaye d'éviter de les laisser sur les arbres pour éviter d'avoir des maladies fongiques qui reviennent d'année en année.
Merci beaucoup Tom pour toutes ces précisions. L'heure tourne, mais on va directement passer à la question finale. On a parlé ce matin que l'hiver arrivait bientôt, on a fait le grand nettoyage. Tom, est-ce que vous avez un dernier conseil?
On en a parlé surtout, parce qu'on n'a pas commencé, Mylène, le nettoyage. Hein. On en a juste parlé, on a donné des conseils. Non, on ne l'a pas fait. Hein.
Que on va laisser le jour se lever, mettre une grosse doudoune.
Mais vous t'inquiète, non, moi je veux que ça soit propre et tout ça. Donc, bref, est-ce que vous avez quand même un dernier conseil avant l'hiver concernant le jardin?
Alors, on rentre toutes les plantes frileuses, on écoute la RTN, RFJ et RJB la semaine prochaine pour savoir ce qu'il y en a fait. On purge les tuyaux d'arrosage et tout ça, on rentre les outils parce qu'on veut éviter d'avoir des dégâts dus avec le gel. Et puis, on fait très attention aussi à nos plantes qui peuvent, au potager, qui risquent de pourrir si elles ont un petit coup de gelé. Je parle des choux, les céleris, les betteraves rouges, etc. Donc, celles-là, on les rentre aussi en cave. Et puis, on va régulièrement faire des tours en cave, inspecter, pas qu'on ait des légumes qui commencent à pourrir et qui contaminent tous les autres, parce que ça serait dommage pour un légume pourri de contaminer tout le monde et puis que tout le travail qu'on a fait pendant toute la belle saison.
Tom, avant de vous laisser filer, en plus de jardinier, vous aimez passer beaucoup de temps en cuisine. Quelle est votre recette coup de cœur de l'automne ?
Ah ben là, c'est toutes les recettes à base de courge, hein, la soupe, les gâteaux à la courge, que ce soit salé, sucré. On peut aussi faire une bonne sauce pour mettre sur des pâtes, plein de choses. On a aussi la période des marrons qu'on peut cuisiner ou juste manger comme ça chaud. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec les choux Bruxelles aussi, là, les poires, faire une bonne salade de poires avec de l'amage, du gorgonzola et puis des poires qu'on aurait fait juste passer au barbecue par exemple. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire et puis on essaye aussi de planter pour l'année prochaine par exemple un poirier, tout ça c'est aussi la bonne saison de faire.
On va juste vous demander une petite recette de courge là, vite fait.
On va faire une courge toute simple, qu'on va une courge, moi je prends plutôt la butternut, qu'on va couper en deux dans le sens de la longueur, comme ça on peut l'avoir bien longue. On enlève les filaments, les graines de courge, on passe un petit coup de couteau, on va mettre un petit peu d'huile, l'huile d'olive ou des choses comme ça, puis on va les mettre les deux grillés au four pendant 15-20 minutes. On le voit, dessus ça commence généralement à venir un tout petit peu plus brun, plus foncé, pas brûlé, hein. Et puis après on peut la racler tout simplement. Là on peut soit la transformer en soupe, une autre façon de faire de la soupe, parce que je trouve que là, ça concentre un petit peu plus les arômes. Ou alors, on peut, moi, je la passe juste à la fourchette, je l'écrase, je rajoute un petit peu de crème, puis je vais mettre ça sur des pâtes.
Bon, bah ça y est, j'ai faim, c'est l'heure de vous laisser, Tom. On rappelle que vous êtes chroniqueur, blogueur, auteur du livre « Un potager au naturel » qui est paru chez Albin Michel. Et vous retrouvez tous ces conseils jardinage sur tomlejardinier.com ou sur tous ces réseaux sociaux très très connectés. Notre cher Tom le Jardinier, bon week-end à vous, Tom, et à samedi prochain parce que vous avez fait un très bon teasing, donc on vous retrouve samedi prochain.
Alors, à la semaine prochaine.
Et on peut rajouter que Tom le Jardinier est aussi un sérieux gourmet.
Un serial gourmet.
Voilà, on vous donne donc rendez-vous samedi prochain dès 7h en compagnie de Tom le jardinier. Nous parlerons donc de protection hivernale. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en tout temps, soit par SMS ou tapez jardin, un espace et votre question. Et vous nous envoyez ce message au 939 ou via le formulaire disponible sur notre site avec la possibilité de joindre une photo. À samedi prochain, Raphaël.
À samedi prochain, Mylène. Bon week-end à tous.
Et à toutes.
7h, 8h, les jardinières.